Bienvenue sur France Culture, vous écoutez La Grande Table et tout de suite, il est midi et demi, c'est le journal. Présenté par Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. En Iran, le guide suprême Ali Khamenei avait choisi de s'exprimer ce matin de manière inhabituelle lors de la grande prière hebdomadaire musulmane, l'occasion d'afficher une attitude de fermeté contre les Occidentaux tout en laissant entendre que les manifestations anti-pouvoir survenues après le crash de l'avion de ligne ukrainien n'étaient pas représentatives de l'ensemble du peuple iranien.
Après 6 semaines de conflit, la mobilisation contre la réforme des retraites a reflué hier dans la rue.
Et ce, même si les syndicats contestataires s'affirment toujours déterminés pour la suite du mouvement avec notamment un nouveau rendez-vous le 24 janvier prochain à l'occasion de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres. Le procès de l'ancien prêtre Bernard Prenat, auteur de centaines d'agressions sexuelles sur de jeunes scouts, dévoile aujourd'hui son dernier acte avec les réquisitions du parquet puis les plaidoiries de la défense.
L'annonce était redoutée dans la capitale française de la gastronomie.
Et elle vient de tomber donc presque 2 ans jour pour jour après la disparition de Paul Bocuse. Son restaurant mythique des bords de Saône perd sa 3e étoile. Enfin, l'invité de la rédaction dans une 20aine de minutes, Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, centre de recherche de référence sur la finance verte. Avec elle, nous parlerons donc économie et écologie à quelques jours de l'ouverture mardi prochain du forum de Davos. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Pour un éloge du retard avec notre invitée, la philosophe et psychanalyste Hélène Leuillet, pourquoi faut-il réapprendre à prendre le temps et notamment prendre le temps d'être un peu en retard? Ça nous arrive jamais. Tous les deux. Mais Hélène Leuillet va nous donner envie de l'être un tout petit peu plus.
Merci et à tout à l'heure. Dès le début de la matinée, la télévision publique iranienne avait décidé d'émettre montrant des bus entiers déchargés des foules de fidèles à la mosquée Mossala de Téhéran. C'est là en effet que l'ayatollah Ali Khamenei a choisi de présider aujourd'hui pour la première fois depuis 2012 la grande prière hebdomadaire musulmane. Et bien évidemment, si ce discours était attendu, ce n'était pas tant pour son caractère inhabituel, mais plutôt en raison du contexte actuel marqué non seulement par les fortes tensions avec les États-Unis, sans oublier l'indignation causée en Iran par le drame de l'avion ukrainien abattu la semaine dernière près de Téhéran. Et c'est ainsi que, tout en reconnaissant implicitement l'existence d'une crise de confiance envers les autorités, eh bien le guide suprême aura surtout tenu à répéter ce matin que les Occidentaux ne sont pas dignes de confiance. Les précisions à Téhéran de notre correspondant Yavosh Ghazi.
C'est un discours de fermeté qu'a tenu l'ayatollah Khamenei. Il a salué la présence massive des Iraniens lors des cérémonies de deuil du général Qassem Soleimani, le chef de la force Quds des gardiens de la révolution, tué par une frappe américaine à Bagdad, mais aussi la frappe d'une base américaine par des missiles iraniens, en qualifiant les deux événements d'événements divins qui vont marquer les prochaines années. Il a notamment affirmé que les Iraniens, avec leur présence massive aux obsèques du général Soleimani, avaient de nouveau fait allégeance aux idéaux de la révolution islamique. L'ayatollah Khamenei a également présenté ses condoléances aux familles des victimes de l'avion ukrainien, abattu par erreur par un missile iranien, en qualifiant le crash d'accident douloureux. Mais il a dénoncé ceux qui, selon lui, ont tenté de faire oublier ces deux événements majeurs. En effet, des manifestations ont eu lieu entre samedi et lundi à Téhéran et en province, rassemblant à chaque fois quelques centaines ou quelques milliers de personnes avec des slogans très durs contre le pouvoir pour critiquer la version des autorités qui ont tout d'abord évoqué un simple accident technique avant de reconnaître qu'un missile avait été tiré par erreur contre l'avion ukrainien.
Et toujours s'agissant de l'Iran, j'ajoute que contrairement aux déclarations du président Donald Trump, l'attaque lancée par Téhéran contre 2 bases américaines en Irak, quelques heures seulement d'ailleurs avant la catastrophe de l'avion de ligne ukrainien, a fait 11 blessés parmi les soldats, selon le commandement central de l'armée américaine. Donald Trump s'envolera lundi prochain pour la Suisse avant l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, mais aussi à la veille donc du début de son procès en destitution, signe que le locataire de la Maison Blanche est aujourd'hui persuadé de pouvoir compter sur le bouclier de son propre camp, majoritairement aux ordres. Reste toutefois une première incertitude. Certains élus républicains se rallieront-ils aux démocrates pour réclamer l'audition de témoins qui pourraient éclairer le dossier? Et puis hier, alors même que les sénateurs effectuaient leur prestation de serment, prélude au procès, de nouvelles révélations sont venues télescoper cette cérémonie. Dans un rapport accablant, un organisme d'audit public américain, l'équivalent de la Cour des comptes en France, accuse la Maison Blanche d'avoir, je cite, enfreint la loi engelant des fonds destinés à une aide militaire à l'Ukraine. Or, même si Donald Trump n'a pas à craindre de sanctions pénales à la suite de ce rapport, nul doute que les démocrates, eux, tenteront de l'utiliser dans le cadre de la procédure d'impeachment. Le maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, qui s'oppose, vous le savez, au gouvernement de Tripoli, est arrivé hier soir à Athènes, où il doit s'entretenir aujourd'hui avec le Premier ministre. Alors pourquoi la Grèce? Eh bien parce qu'Athènes s'oppose formellement aux accords conclus entre la Turquie d'un côté et le rival du maréchal Haftar, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, de l'autre. Ces accords permettent en effet à la Turquie de faire valoir des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale, des zones contestées riches en hydrocarbures. En d'autres termes, et sachant que la Grèce n'a pas été invitée à participer à la conférence de paix sur la Libye prévue dimanche à Berlin, cette visite est surtout à considérer comme faisant partie de l'effort diplomatique d'Athènes pour renforcer sa position et s'assurer notamment qu'aucune décision qui sera prise à Berlin ne nuira à ses propres intérêts. Au Liban, un nouveau gouvernement verra-t-il le jour aujourd'hui, soit 3 mois jour pour jour après le début de la révolte populaire au pays du Cèdre. Hier soir encore, après 2 nuits consécutives de violents affrontements entre protestataires et forces de l'ordre, la rue était toujours en effervescence avec de nouvelles manifestations, en particulier devant le Parlement et le ministère de l'Intérieur. Le taux de natalité de la Chine a chuté l'an passé à son plus bas niveau depuis la fondation de la République populaire en 1949. C'est ce qu'ont indiqué ce matin les autorités de Pékin, de quoi accentuer évidemment les inquiétudes quant au vieillissement de la population. Et puis, cette annonce tend par ailleurs à démontrer que l'assouplissement, c'était en 2016, de la politique de limitation des naissances en Chine n'aura donc pas eu l'effet escompté, au point de faire redouter à présent une véritable crise démographique. Les précisions de Valérie Crova.
C'est un fait, jamais la Chine n'a compté aussi peu de bébés. L'abandon officiel de la politique de l'enfant unique en 2015 n'a pas provoqué l'augmentation des naissances espérées par Pékin. Les couples désormais autorisés à faire un deuxième enfant sont réticents à devenir parents en raison du coût de la vie qui n'a cessé d'augmenter en Chine, que ce soit l'éducation, les loyers ou les soins de santé. Une bombe à retardement démographique pour ce pays de 1,4 milliard habitants, confronté à un vieillissement croissant de sa population. Selon des chiffres parus en 2017, près de 30% de la population chinoise sera âgée de 60 ans et plus en 2030, contre seulement 13% en 2010, si aucune mesure n'est prise. D'autant que la population active poursuit parallèlement son déclin, menaçant une économie nationale fragilisée. La croissance chinoise marque en effet le pas et pourrait tomber sous les 6% cette année. Les démographes, qui tirent la sonnette d'alarme depuis 10 ans, appellent à la levée complète de la limitation des naissances pour enrayer le phénomène de la chute de la natalité.
En Allemagne, la chancelière a beau placer l'urgence climatique au cœur de ses interventions publiques, elle peine visiblement encore à convaincre. Sa politique est jugée bien souvent insuffisante et même nocive par nombre d'activistes environnementaux. Son gouvernement est d'ailleurs actuellement visé par plusieurs requêtes constitutionnelles de la part d'ONG qui plaident par exemple pour la fermeture immédiate des centrales à charbon et non d'ici 2038, comme le prévoient les autorités. D'autres préconisent par ailleurs une limitation de la vitesse sur les routes, un véritable tabou en Allemagne, tout particulièrement dans le camp conservateur. Et puis aujourd'hui, c'est au tour des agriculteurs de s'apprêter à pousser un nouveau coup de colère. Une manifestation de tracteurs est prévue ce week-end à Berlin. Marie-Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Alors à l'inverse, les agriculteurs rompus à l'utilisation de pesticides auraient, eux, plutôt tendance à avoir d'un mauvais œil l'infléchissement justement de la politique agricole qui entend se verdir de plus en plus, comme le prouve, Marie-Pierre, cette loi présentée aujourd'hui au Bundesrat sur la vente de terres agricoles.
Oui, et depuis que ce plan agriculture a été détaillé en septembre, la fronde ne faiblit pas outre-Rhin. 40 000 manifestants avaient ainsi investi Berlin en novembre dernier, appuyé par plus de 8 000 tracteurs. Le spectacle Porte de Brandebourg avait frappé les esprits, car l'Allemagne n'est pas habituée à voir ses agriculteurs et éleveurs battre le pavé. Mais depuis l'automne, elle a dû s'en accommoder. Les manifestations nationales ou locales ont maintenu la pression. Plusieurs points attisent l'inquiétude de la profession. L'interdiction du glyphosate à partir de 2024, la diminution des pesticides et engrais, notamment dans le cadre du plan insectes qui vise à protéger la biodiversité, la réduction des cheptels, là pour lutter lutter contre les gaz à effet de serre ou encore le label sur le bien-être animal. Mais le modèle agricole allemand très intensif doit d'évidence évoluer et radicalement. Le niveau de pollution des nappes phréatiques par les nitrates d'origine agricole est ainsi tellement alarmant que l'Allemagne a été condamnée par la Cour de justice européenne. Elle n'a plus le choix. Elle doit donc encadrer sévèrement l'usage des nitrates. Les syndicats agricoles en conviennent. Ils réclament plutôt d'être associés plus étroitement à l'élaboration de la politique agricole. Ils estiment que l'on doit privilégier l'incitation à l'interdiction. Mais ils se font également l'écho du profond malaise du secteur. Les revenus chutent, le poids de l'agriculture dans l'économie ne cesse de baisser. Les agriculteurs allemands craignent en fait de disparaître. Alors cette semaine verte qui s'ouvre est donc l'occasion de refaire une démonstration de force. Mais d'autres paysans allemands vont profiter aussi de la semaine verte donc à Berlin et dans toute l'Allemagne pour se mobiliser avec des mots d'ordre opposés. Ils sont soutenus par une centaine d'organisations. Ils vont dénoncer les modes de production très industriels. Ils veulent que les subventions européennes récompensent des comportements vertueux plutôt que de favoriser les grandes exploitations. Ils défileront donc pour une agriculture plus verte. Ce sont donc deux Allemagnes agricoles qui vont descendre dans les rues de Berlin aujourd'hui et demain.
Merci Marie-Pierre Véro. Mi prêtre, mi traître, voilà comment un expert psychiatre a tenté de préciser cette semaine la personnalité de Bernard Prenat, jugé à Lyon pour avoir abusé de jeunes scouts pendant une vingtaine d'années, un être double en somme, à la fois vicaire adulé par tous et redoutable prédateur, un pervers sexuel qui jamais durant ce procès n'aura prononcé le mot de victime, hormis pour évoquer les agressions sexuelles qu'il a dit avoir lui-même subies dans son enfance. Des confidences d'ailleurs qui ont semble-t-il laissé les parties civiles plutôt sceptiques. Seule certitude à la barre du tribunal correctionnel de Lyon, Bernard Prenat aura maladroitement demandé pardon en minimisant bien souvent les faits détaillés par 9 de ses victimes présentes à l'audience. Il fait dire d'ailleurs à l'avocat de l'un d'entre eux, le problème avec Prenat, ce n'est pas l'aveu, c'est le remords. Alors, en attendant l'intervention cet après-midi de la défense pour qu'il ait fait reprocher à Bernard Prenat son prescrit, les parties civiles ont fini de plaider ce matin, Mathilde Imberti, pour des victimes qui cherchent une reconnaissance.
Oui, en particulier les victimes qui ont souffert d'amnésie traumatique. Les agressions sont remontées, par exemple, pour Anthony, 30 ans après les faits, en 2016, lorsque la parole libérée cherche des témoignages. C'est alors tout son passé de scout qui lui revient en mémoire. C'est le procès de résistant, appuie l'avocate de l'association La Voix de l'Enfant à l'audience. Quel courage poursuit-elle de s'attaquer à une telle cathédrale, allusion au secret prévalant dans l'église. Bernard Prenat aujourd'hui demande pardon, présente ses excuses. Maître Sauvert, autre avocat de partie civile attaque, je ne le crois pas. Bernard Prenat a menti pendant 30 ans, il n'a jamais eu le moindre regret. Et sur les agressions qu'il dit avoir subies lui-même dans son enfance et adolescence, ce même avocat ajoute, c'est une histoire un peu trop confortable. Il ressort aussi de ce procès qu'aucune victime n'a été identifiée depuis 30 ans. Pour l'avocat Maître Boudot, c'est bien la preuve absolue que s'il avait voulu réfréner ses pulsions, il aurait pu. De quelle peine écopera l'ancien prêtre? Il risque sur le papier 10 ans de prison pour avoir agressé 10 enfants. Toutes les autres victimes, plusieurs dizaines de victimes, sont prescrites. Du fait de son âge, 74 ans, et de sa santé, des problèmes cardiaques, il pourra demander à échapper à l'incarcération, avec de bonnes chances d'obtenir gain de cause. Le réquisitoire est attendu cet après-midi, puis la plaidoirie de la défense de Bernard Prenat. Le jugement sera mis en délibéré et rendu dans plusieurs semaines.
Christophe Ruggia, accusé d'attouchement et de harcèlement sexuel par l'actrice Adèle Haenel, a été mis en examen hier pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité. Le réalisateur français a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Enfin, au procès singulier des fantômes du djihad, 24 accusés au total, dont 19 partis en Irak ou en Syrie, sont presque tous considérés comme morts, bien qu'officiellement toujours recherchés. Le verdict est attendu en fin de journée, mercredi, aux assises spéciales de Paris. L'accusation a requis de lourdes peines, jusqu'à 15 ans contre les 5 accusés physiquement présents et de 30 ans de prison à la perpétuité pour les absents, dont l'aîné des frères Belloucine, figure tutélaire dans cette affaire et considéré notamment comme le mentor du tueur de l'hypercacher Hamedi Coulibaly. Quand certains y verront une preuve indiscutable de ce que la mobilisation contre la réforme des retraites a tendance à s'essouffler, d'autres préféreront probablement retenir cette donnée tout aussi irréfutable que ce mouvement social constitue d'ores et déjà l'un des plus longs de l'histoire moderne du pays. Quoi qu'il en soit, avec 187 000 manifestants recensés dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, les syndicats contestataires réfutant tout baroud d'honneur ont donc tenté de maintenir la pression. Hier, l'intersyndicale a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé deux nouvelles mobilisations, les 22, 23 et surtout 24 janvier prochain, date de la présentation du projet de loi en Conseil des ministres et donc aussi d'une 7e journée d'action nationale. Ou dit autrement, le bras de fer se poursuit. Alors c'est le cas plus particulièrement avec le mouvement chez les dockers de métropole qui, depuis le début de la semaine, mènent des opérations de blocage dans les 7 grands ports maritimes, au point que les rayons des grandes surfaces de certains territoires d'outre-mer commencent à présent à manquer de produits alimentaires frais. C'est le cas notamment en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, mais aussi en Guyane. En revanche, les perturbations sont moindres à La Réunion et à Mayotte qui s'approvisionnent notamment auprès des pays voisins. Toujours est-il qu'après ce nouveau coup dur, dans la foulée des perturbations depuis le début de la grève, les transporteurs de marchandises, dont l'activité est aujourd'hui paralysée par le blocage des ports, réclament désormais des mesures d'aide au gouvernement. Alors, si la protestation contre la réforme des retraites se poursuit donc notamment dans les ports, la question reste toujours la même pour les syndicats. Que peuvent-ils encore espérer dans leur bras de fer face à un exécutif toujours résolu à aller jusqu'au bout? Élément de réponse avec Stéphane Sirot, historien, spécialiste des conflits sociaux et professeur à l'université de Cergy-Pontoise.
La mobilisation qui perdure peut maintenir une pression, peut maintenir un rapport de force. On sait très bien que le processus est loin d'être terminé, qu'il doit y avoir tout un processus législatif, mais aussi un processus également de discussion entre le patronat, les organisations syndicales, sous la surveillance de l'État, au travers de cette fameuse conférence de financement qu'avait proposée la CFDT, et qui s'annonce extrêmement délicate, c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est la raison pour laquelle ce maintien d'une forme de rapport de force, sans peut-être obtenir des concessions supplémentaires, devrait à minima maintenir une pression qui sera susceptible d'orienter, je dirais, les décisions du gouvernement dans un sens qui chercherait plutôt à éviter de mettre de l'huile sur le feu. C'est pourquoi la poursuite sous d'autres formes d'un rapport de force peut laisser espérer à ceux qui participeront à ce mouvement qui continuera, à minima, ils réussiront à conserver ce qui a été obtenu, notamment que les mesures d'âge seront éventuellement une solution qui sera regardée à deux fois.
Voilà, Stéphane Sirot, historien, spécialiste des conflits sociaux et professeur à l'université de Cergy-Pontoise. C'est un véritable coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie. Le restaurant de Paul Bocuse à Collonges au Mans-d'Or vient d'être rétrogradé dans l'édition 2020 du guide Michelin, à paraître le 27 janvier prochain. Monsieur Paul, décédé il y a presque 2 ans, jour pour jour, détenait ses 3 étoiles depuis 1965, sans discontinuer. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors après la 3e étoile, enlevé, c'était l'an dernier à Marc Vera, le guide récidive. Donc, faut-il y voir là, Anne-Laure, le signe d'une révolution dans ce monde très feutré de la gastronomie?
Oui, parce que là, le guide s'attaque en plus au pape de la gastronomie, déclenchant d'ailleurs une vague de commentaires indignés depuis ce matin de la part de chefs ou d'experts du sujet. Il faut dire que le guide Michelin, qui aura 120 ans cette année, est encore extrêmement important pour un grand nombre de chefs qui travaillent dans l'optique d'avoir une ou plusieurs étoiles. Mais déjà l'an dernier, en enlevant sa 3e étoile à Marc Vera, le guide s'était fait remarquer. Les étoiles ne sont pas attribuées à vie, nous explique son directeur général Gwendal Poulenec, arrivé il y a 1 an et demi à la tête du guide.
Les étoiles déjà n'appartiennent pas au chef, mais sont le résultat du travail de toute une équipe. Nos classements ne dépendent pas de l'aura médiatique d'un chef. Et enfin, les étoiles, ça ne s'hérite pas, ça se mérite.
Alors il faut dire qu'aujourd'hui, le guide Michelin et ses fameux inspecteurs anonymes est à un tournant de son histoire, concurrencé de plus en plus par des sites internet de recommandations de bonnes tables, des blogs gastronomiques, il lui faut se réinventer pour durer. Lui qui a été critiqué pour être un peu trop proche de l'establishment. Depuis plusieurs années, il essaye ainsi de conquérir de nouveaux terrains, des terrains géographiques, avec l'Asie notamment. Le guide est aujourd'hui présent dans 32 pays, territoire thématique aussi, avec le rachat de 40% des parts du Fooding, ou encore récemment la signature d'un partenariat stratégique avec TripAdvisor et La Fourchette, deux sites rivaux qui aujourd'hui apparaissent comme la clé de son développement.
Merci Anne-Laure Jumet. Invité de la rédaction aujourd'hui pour parler finances durables en prévision du forum de Davos qui s'ouvrira mardi prochain, Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic, centre de recherche de référence sur la finance verte. Bonjour madame.
Bonjour.
M'écoutez pour vous interroger, Annabelle Grelier. Bonjour Annabelle.
Bonjour.
Première question, madame Husson-Traoré, selon une étude publiée cette semaine par le Forum économique mondial, les 5 premières préoccupations des chefs d'entreprise pour les 10 prochaines années seraient toutes liées à l'environnement, le risque climatique. seraient aujourd'hui situés au sommet de leurs préoccupations. Et pourtant, malgré toutes ces déclarations d'intention, les grands groupes mondiaux restent le plus souvent accusés d'hypocrisie sur le climat. Qui faut-il croire ?
Eh ben écoutez, il faudrait croire, on va dire, le président du Conseil de stabilité financière du G20 qui en 2015, il s'appelle Mark Carney, a dit le changement climatique, c'est un risque systémique pour la stabilité financière mondiale. En 2015, c'était un discours très très novateur qui est donc aujourd'hui totalement assimilé par ceux qui remplissent le rapport de risque de Davos. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en fait, c'est finalement notre économie mondiale, c'est un peu un jeu de domino ou un château de cartes, et que donc le changement climatique, il bouleverse tout. C'est-à-dire, évidemment qu'il fait disparaître les espèces, la glace, etc., et il fait monter les incendies, c'est ce qu'on appelle le risque physique, mais ce risque physique, il change tout. C'est-à-dire que concrètement, on doit changer de modèle énergétique, donc ça veut dire passer complètement d'un modèle pétrolier à un modèle à base d'énergie renouvelable, mais ça, c'est une toute petite partie de ce qu'on a à faire. On doit transformer notre mode de production qui consiste par exemple pour l'instant à pêcher un saumon en Norvège, à l'emballer en Chine et à le vendre en Espagne. Donc effectivement tout ça produit énormément de CO2 et ce modèle-là est le modèle qui ne doit pas durer. Donc s'il ne dure pas, ça veut dire que vous faites tomber le château de cartes, ça veut dire qu'effectivement les entreprises qui aujourd'hui ont beaucoup de valeur boursière pourraient en valoir pas du tout dans longtemps, ce qu'on appelle le risque de transition. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a tout des besoins financiers colossaux pour adapter notre économie. Prenons simplement les bâtiments. Quand vous avez des températures très élevées l'été, des changements de température très rapides, tous les systèmes de chauffage, tous les bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui ne supporteront pas ça. Donc il faudra chaque année les reconstruire. Vous avez dans le sud-est de la France des endroits où les inondations étaient deux fois dans le mois. Vous imaginez ce que ça coûte au-delà de l'aspect humain des choses. Donc c'est ça qui les préoccupe tous beaucoup. Donc c'est pas tellement... en fait, ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est si vous avez des dirigeants d'entreprise ou financiers qui vous disent le scénario business as usual, ça va marcher, regardez, ça rapporte déjà beaucoup et on va continuer comme ça, c'est là où il faut s'inquiéter.
Question d'Annabelle Grelier.
Alors, l'Europe est très engagée sur la finance durable. En tout cas, elle se veut leader dans la transformation vers l'économie durable. En a-t-elle vraiment les moyens ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès 2017, l'Europe a décidé de s'attaquer par la finance à ce sujet-là, en créant un groupe d'experts auquel j'ai eu le plaisir d'appartenir, pour dessiner ce que pourrait être un système financier, celui de l'Europe, durable. C'est-à-dire, en gros, où les montants colossaux qui sont gérés par la finance sont alloués vers le plus possible l'économie verte, mais vers aussi la transformation de l'économie telle qu'elle est, et si possible, l'arrêt de l'économie marron à base de pétrole et de charbon.
Oui, mais alors justement, pour le citoyen, il y a toujours des belles intentions et ensuite, dans les actes, dans le concret, on ne voit rien. Alors, ou parfois même pire.
Et en fait, même souvent, on a l'idée, et c'est pour ça que BlackRock s'est retrouvé tout d'un coup une marque de grand public, très exposée et très attaquée aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a pris conscience finalement qu'aujourd'hui, un acteur comme BlackRock qui pèse plus de 7000 milliards de dollars...
C'est le plus gros fonds.
C'est le plus confond, mais c'est surtout un peu le roi du monde au sens propre du terme, puisque finalement, il est actionnaire de la plupart, à des niveaux très importants, des grandes entreprises mondiales.
Et français.
La façon dont lui oriente ses investissements est absolument clé, et que depuis maintenant 2 ans, il fait l'objet de... Alors, il y a eu des prises de position de son dirigeant, qui est un des principaux invités de Davos, pour expliquer qu'effectivement, aujourd'hui, une entreprise qui ne ferait que des résultats financiers, certes mirifiques, mais au prix de tout le reste et au prix environnemental et social trop élevé, ce genre d'entreprise n'est pas durable. Ça, c'était la première étape. Deuxième étape, du coup, tout le monde l'a pris au mot en disant, bah alors, comment vous exercez votre droit de vote d'actionnaire ? Pas du tout dans le sens de la protection climatique. Et donc la nouvelle lettre qui a été publiée il y a quelques jours dit oui, si les entreprises dont nous sommes actionnaires ne sont pas suffisamment orientées sur la transition, alors nous voterons contre, ce qui est une révolution phénoménale. Et quand lui change les choses, là ça a du poids. Ça reste très abstrait pour un citoyen de base, mais qui a souvent un peu d'épargne. Donc aujourd'hui on va vers un monde où on essaie de leur expliquer que eux aussi peuvent faire leur part. Par exemple, dans le cas du livret A, ça sert à financer du logement social, mais le logement social, il doit être thermiquement le plus faible possible pour coller avec le changement climatique. Ça, c'est un aspect. Et puis l'autre aspect, c'est les placements. L'assurance vie en France, c'est 1600 milliards d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. Cet argent-là, aujourd'hui, dès la loi PAC, il peut être orienté vers des fonds qui, par exemple, ont un label environnemental, un label vert, le label Greenfield.
Donc le moyen d'action du citoyen, c'est quoi ? Son épargne ? épargne, son vote.
Et c'est questionner ces acteurs. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous payez, je sais pas, votre assurance auto ou autre, bah, l'assureur en question, il a les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, lui demander, mais en fait, et vous, qu'est-ce que vous faites pour justement être sûr que vous allez pouvoir me payer mes dommages auto quand j'ai un accident ou etc. Est-ce que vous tenez compte du changement climatique? Comment vous faites? Expliquez-moi. Et plus il y aura cette pression-là, plus les acteurs en question devront s'organiser pour faire de la finance durable.
Merci Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice, je le rappelle, de Novetic, centre de recherche de référence sur la finance verte, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Annabelle Grolier. On termine avec un mot de météo. Les pluies de la matinée devraient encore progresser pour gagner l'Occitanie, puis la vallée du Rhône, avant de se décaler plus rapidement sur la Bourgogne et le Grand Est. À l'arrière de ce front, le temps sera plus calme, avec alternance de nuages et d'éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet, et à 18h, vous avez rendez-vous avec Benoît Bouscarel pour le prochain journal de la rédaction.